des polars et des notes.
Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre rendez-vous mensuel avec la littérature noire sur les ondes de Radio Évasion, Radio Balise ou Radio Laser. Émission au cours de laquelle nous allons explorer le thème des polices parallèles, des polices dévoyées ou encore de minorités contraintes d'assurer elles-mêmes leur sécurité, les forces de l'ordre censées les défendre étant parfois plus dangereuses que les criminels qui sévissent dans leur quartier. Le lourd parfum du reconfinement planait sur notre beau pays, s'est abattu. Mais il est encore temps de faire provision de lecture malgré les restrictions de déplacement, puisque vous pouvez commander vos romans à votre libraire favori grâce au système Click and Collect. Ne vous privez pas, surtout inutile de passer par les grandes plateformes américaines. Vous pouvez commander dans votre librairie de quartier. Inutile aussi de prendre des notes, toutes les références des romans qui vont être évoquées vous seront accessibles sur le site 404. Pour la technique, l'ami Pierre-Yves, fidèle au poste, attend de pied ferme la plus petite distorsion sonore. Nous pouvons démarrer avec « Justice de rue » de Chris Nelscott, qui est paru aux éditions de l'Aube dans la collection « L'Aube noire » et impeccablement traduit par Benoît d'Auvergne. C'est le 7e volet des aventures du détective privé afro-américain Smokey Dalton, sans aucun doute une des meilleures séries de polars sociaux et historiques en cours. Nous sommes toujours à Chicago en janvier 70 et Lassay, adolescente de 13 ans, fille des amis de Smokey, a été séduite, abusée, violentée par un des hommes de main de la mafia. Le but était certainement de la kidnapper afin de la prostituer, mais Jamie, le fils adoptif de Smokey, un gamin de 12 ans, est intervenu pour contrarier les plans des malfrats. Alors inutile de compter sur la police blanche, elle est grassement payée pour fermer les yeux. Et les quartiers noirs dans la misère, le racisme, la corruption, les complicités des politiques et des truands sont décrits avec minutie tout au long du roman. Chris Nelscott peint le portrait de l'Amérique des 60s et 70s et ce tableau est aussi peu reluisant que celui qu'on pourrait réaliser aujourd'hui. À noter pour les accros de Netflix qu'en toile de fond des deux derniers volumes de la série, c'est-à-dire 4 jours de rage et celui-ci, se déroule le procès très politique qui sert de scénario au film Les 7 de Chicago, à ne surtout pas manquer. Et on s'écoute les suprêmes You Keep Me Hanging On. Bye bye Chicago et justice de rue, nous revenons en France un peu plus de 10 ans plus tard, milieu des années 80, dans une réalité historique légèrement distordue, une vérité alternative, comme on dit maintenant, mais si peu, dans laquelle un service de police ne dépendant pas du pouvoir judiciaire a été créé par le pouvoir, ça s'appelle la police de sûreté et de surveillance, surnommée la boîte ou boulevard Soult. Et ceux qui y travaillent, les boiteux, comme le titre du premier roman de Frédéric Lhomme, paru aux éditions du Rouergue, dans la collection Le Rouergue Noir. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patrick.
Alors, c'est-à-dire vérité alternative que vous avez un tout petit peu arrangé des faits historiques ?
Oui, oui, légèrement. Légèrement, parce que justement, je voulais pas me. Je voulais m'affranchir de contraintes historiques qui aurait pu être un peu trop lourde, parce que je suis assez obsédé par une forme de réalisme, mais je voulais pas pour autant bloquer l'action de mon livre. Donc voilà, ça me permettait comme ça de recréer des années 80 un petit peu à ma sauce et de miser davantage sur une forme de cohérence interne que sur une fidélité, extrême fidélité à cette période de l'histoire. Mais ça reste un décalage minimum.
Ouais. Ouais, parce que votre police là, de sûreté, elle a été créée en 1957, à l'arrivée au pouvoir, du pouvoir qui est là dans votre roman. Oui. Et quand j'ai lu ça, j'ai commencé à lire, ça m'a fait tout de suite penser au service d'action civique, au SAC, la police parallèle gaulliste, créée comme la boîte au moment de la décolonisation. Et ça a été un peu votre modèle.
Alors, pas forcément, évidemment, on peut penser au SAC. Je crois que le SAC, d'ailleurs, a été créé. Il a dû être créé au début de la 5e République.
Oui, c'est ça, il a été dissous en 81.
Ouais, c'est ça. Donc, les boiteux, dans mon bouquin, sont nés à peu près à la même époque. La différence, je dirais, entre le SAC, qui est jamais qu'une association, c'est pas une administration. Voilà, les boiteux, le boulevard Soult, dans mon roman, c'est une véritable administration. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très officiel, hein, qui a une place aux côtés de la police judiciaire au sein de la République. Voilà, le SAC, c'était plus une sorte de police parallèle. Moi, je suis un petit peu entre les renseignements généraux, si tu veux, et puis la véritable police politique qui est le propre des régimes autoritaires, mais quelque part entre les deux.
Ouais, pourtant ils sont affranchis du système judiciaire, c'est un petit peu anticonstitutionnel. Et ils ont l'avantage d'être très richement dotés, les boiteux, voilà. Parce qu'à l'origine ils ont des Alpine A310 en guise de voiture de service,
c'est ça.
Des notes de frais illimitées.
Ouais. Tout à fait.
Et là, quand débute le roman, les années 80, ils sentent les boiteux. Que les heures, ils ont mangé leur pain blanc, les heures sont comptées et le pouvoir n'a plus vraiment besoin d'eux.
Oui, oui, effectivement, parce que même si c'est une version parallèle de l'histoire que je raconte, c'est, l'histoire de France dans le bouquin, elle reste cependant soumise à la marche du monde. Donc à l'époque de l'action, on sent que le régime a déjà entrepris une réforme pour un plus grand respect des libertés publiques, comme ça a été le cas un petit peu avant dans notre réalité, et pour le respect de la vie privée des citoyens, enfin bref. Et donc les boiteux sont devenus quelque part une sorte de boulet électoral pour le gouvernement et pour une société qui ne veut plus de ce genre d'administration policière. Notamment parce qu'elle s'affranchit du contrôle des juges et qu'elle fait un petit peu ce qu'elle veut dans le cadre de ses fonctions.
Et puis, donc le roman s'ouvre avec une policière infiltrée, une boiteuse qui s'appelle Nadia.
C'est ça.
Qui est infiltrée au sein d'un groupe terroriste qui s'appelle l'UCP.
Oui.
Et elle est en mission pour la boîte. Ça fait 3 ans qu'elle est infiltrée. C'est un truc de fou. Et ça commence comme vraiment comme un film d'action, comme un roman d'action, un roman d'aventure. Elle réussit sa mission, c'est-à-dire éliminer le groupe terroriste. Et elle pense être récompensée. Et au lieu d'avoir ce qu'elle veut, elle se retrouve mutée à l'inspection des services, ce qui est vraiment presque une punition.
Oui, enfin, elle se retrouve. Alors, ça, dans le roman, ça s'appelle les affaires internes, et c'est le service qui est chargé au sein des boiteux de s'occuper des affaires qui concernent les propres agents de l'administration. Et elle qui n'était pas du tout fait pour ce genre de choses, pour l'espionnage en interne, c'est quelque chose qui ne lui convient pas du tout, et pourtant forcée de rapporter les faits et gestes d'un vieux fonctionnaire avec qui elle doit coopérer sur une enquête.
Le commissaire Perrin.
C'est ça. Et elle doit collaborer avec le commissaire, avec l'inspecteur Perrin. Il n'est pas commissaire.
Voilà. C'est le commissaire Lafont qui lui demande.
C'est ça. Donc elle doit collaborer avec cet inspecteur parce que d'anciens fonctionnaires des boiteux sont assassinés les uns après les autres, ce qui met quand même les agents dans un certain émoi. Et le problème, hein, c'est qu'en fait, les boiteux ne sont pas censés légalement s'occuper d'affaires criminelles. C'est la chasse gardienne de la police judiciaire. Donc ils vont quand même se charger de cette enquête, parce qu'ils peuvent pas laisser les leurs se faire dessouder comme ça les uns après les autres, même s'ils n'en ont pas le droit.
Sous-main, même voilà. Ceux qui sont retraités d'ailleurs.
Tout à fait. Et voilà. Et ces deux personnages vont mener cette enquête illégale. Et parallèlement à ça, cette inspectrice va devoir surveiller son collègue. Y rapporter ses faits et gestes au patron, parce que l'inspecteur Perrin est soupçonné de collaborer en réalité avec la police judiciaire, qui est la grande rivale et la grande ennemie des boiteux. Et de leur livrer des informations interne au boiteux.
Donc ouais, c'est supérieur, c'est la guerre des polices.
C'est la guerre des polices.
Parce que effectivement, les boiteux, en fait, à force d'être des enfants gâtés de la République, se croient absolument tout permis.
Mais tout à fait. Et ils ont un petit peu de mal avec justement le fait que ils sont plus aussi richement dotés, ils peuvent plus faire autant de choses qu'avant. Chaque fois qu'il y a des nouvelles lois qui sont votées, ils perdent en pouvoir, mais ce qui est normal parce que le gouvernement en place veut de toute façon les dégager d'une façon ou d'une autre. Comme on a pu dissoudre par exemple les renseignements généraux au début des années 2000. Enfin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne correspond plus à l'époque, et c'est cette volonté du gouvernement quant à la...
Et Louise, c'est Louise qui porte le roman à bout de bras, et paradoxalement, elle qui est jeune, faite pour l'action, travaille avec un vieux grincheux, parce qu'il est quand même pas mal grincheux, Perrin.
Oui.
Et petit à petit, ce duo-là, il se met à fonctionner, et à fonctionner même très bien.
j'ai essayé de faire en sorte. Mais parce qu'en fait... Même si Louise et Perrin n'ont pas le même âge, ils ont des parcours radicalement différents, bien sûr. Mais petit à petit, comment on peut dire ça, ils vont avoir une sorte de sentiment commun de ne plus appartenir à leur époque, puisque ils appartiennent tous les deux à une administration qui est périclite. Donc la République va se débarrasser d'eux en même temps qu'elle va abandonner un peu ses anciennes formes. Et c'est ça, en fait, qui va faire naître cette histoire d'amitié inattendue entre ces deux personnages. Ils sont sans doute trop différents pour s'apprécier d'emblée, mais petit à petit, quand même, au fil du roman, ils vont se rapprocher. Et en même temps qu'ils progressent dans leur enquête et qu'on voit les crimes qui se succèdent, il y a quand même une forme de complicité qui va s'installer entre eux. Mais davantage fondée sur la confiance et l'estime réciproque, même parfois une certaine tendresse que sur un parcours identique ou des convictions identiques d'ailleurs.
Puis ce sont deux francs-tireurs tout de même.
Oui. Ça c'est.
Ce sont deux personnages qui n'aiment ni la hiérarchie, ni avoir de compte à rendre, et le fait de pouvoir enquêter hors du regard de la justice, hors des commissions rogatoires, hors procédure et tout ça, ça va finalement les souder contre ce commissaire qui est de la police judiciaire, qui est en fait presque leur pire ennemi plutôt que le criminel qui sont en train de chercher.
Tout à fait. Ben, c'est vrai que moi j'avais découvert avec pas mal d'étonnement finalement que la guerre des polices, c'était une très vieille tradition française, et qu'on avait eu comme ça dans l'histoire de notre République, mais même des républiques qui l'ont précédée, comme ça, une tradition, enfin, d'un manque de coopération entre services et d'un affrontement inter-services. Voilà, et souvent, il y a deux choses comme ça, deux combats qui sont menés de front, mais même encore aujourd'hui, quand on parle de la traque des terroristes en 2015, de l'affrontement entre la gendarmerie et la police judiciaire, et puis on avait vu tout d'un coup une coopération inédite entre le GIGN et le RAID, et c'était quelque chose d'exceptionnel, et on sent ce passé, cette tradition qu'il y a toujours comme ça de lutte entre les services, et ça je l'ai reprise quasiment telle quelle, sauf que évidemment le service, comment les boiteux qui peuvent se passer du contrôle des juges, ça n'a pas existé, même si
la tentation a été grande.
A été très grande. Mais ce qui explique d'ailleurs la naissance d'organisations comme le SAC, qui sont.
Oui.
Mais ça aussi, c'était une autre de mes découvertes quand je me suis beaucoup documenté après les attentats, c'était que très très souvent, finalement, la République, sous le prétexte d'assurer sa propre continuité, hein, c'est-à-dire dans des époques où elle est extrêmement fragilisée et où elle se demande si elle va être capable de se défendre, si les administrations policières qui sont censées la défendre ont suffisamment de pouvoir. Souvent, la tentation a été grande de créer des polices politiques, pour une question d'efficacité. Et dans la généalogie des renseignements généraux, on a eu la Sûreté Générale, on a eu une police un peu particulière qui s'appelait la police des chemins de fer, et puis les renseignements généraux qui sont créés en même temps d'ailleurs que les brigades du Tigre à peu près, hein, qui vont devenir la PJ. On a toujours eu comme ça cette
Mais là, il y a une perversion un peu dans votre roman, c'est-à-dire que les boiteux, la boîte qui avait été créée pour défendre la République, bon, très bien, on peut douter des moyens, mais enfin bon. En fait, dans votre roman, on sent la fin, les Alpine A310, elles roulent à peine, les sièges sont défoncés, ouais. Etc. En fait, les boiteux défendent la boîte, ils défendent plus la République.
Ah bah c'est ça, en fait. Alors, dans le roman, ça s'appelle jamais la boîte, ça s'appelle le boulevard Soult,
oui.
Justement, parce que on a le quai des Orfèvres d'un côté, le boulevard Soult, parce que c'est leur adresse à eux. Voilà. Et oui, finalement, comme dans beaucoup d'histoires d'administration, c'est typiquement français, là aussi, c'est une administration cherche aussi à assurer sa propre survie. Elle cherche à remplir la mission qu'on lui a donné, mais aussi toujours en parallèle à justifier son existence et à assurer sa survie. Et c'est toujours deux choses, en fait. Et là, deux choses qui se mélangent clairement dans le roman et dans la mission qu'on a confiée à la fois à Louise et à son collègue Perrin.
Bon, alors, si vous voulez tout savoir sur une police parallèle qui a été inventée, mais qui n'est pas très loin de la réalité quand même, moi je vous recommande le bouquin de Frédéric Lhomme qui s'appelle Les Boiteux et qui est paru aux éditions Le Rouergue dans la collection Le Rouergue Noir. Merci beaucoup Frédéric Lhomme.
Merci Patrick.
On va s'écouter Scorpion, Still Loving You, parce que vous avez quelque chose contre les groupes de hard qui font de la musique douce, je crois. Il me semble.
C'est Louise qui a quelque chose contre eux.
Ouais, il me semble avoir lu ça. Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci. Au revoir.
Au revoir. I will. Que devenait donc l'ignoble Léon Sadorski, l'inspecteur principal adjoint des renseignements généraux sous l'occupation, le spécialiste de la traque des Juifs que nous avions quitté à la fin de la trilogie des collabos et qui était absent du dernier roman de Romain Slocum, Débâcle. Et voilà que nous le retrouvons ce mois-ci dans La Gestapo Sadorski, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors, la trilogie est devenue une tétralogie, c'était prévu ?
Alors, au début, on voulait en faire au moins deux et trois si possible. Et puis bon, ça a marché commercialement, ce qui aide toujours parce que l'éditeur est plus enthousiaste quand il voit que les livres se vendent, ils aiment bien ça. Et puis, je me suis rendu compte que le projet a pris de l'ampleur et je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire une sorte de entre guillemets de fresque de la vie quotidienne à Paris sous l'occupation et qui est basée sur des périodes extrêmement précises. Et c'est vrai que l'été 1940 et par exemple l'hiver 43-44, c'est extrêmement différent. C'est pas du tout la même, l'opinion publique ne pense pas du tout la même chose, la situation des gens n'est pas la même, évidemment l'évolution de la guerre ça a beaucoup changé, puisqu'on est parti d'une sorte de quasi-certitude que toute l'Europe allait devenir allemande jusqu'à la quasi-certitude que le débarquement sur les plages de la Manche ou de l'Atlantique était imminent. Donc voilà, ça s'est étoffé au fil du temps. Le personnage même de Sadorski s'est étoffé, puis les gens autour de lui. J'ai commencé vraiment à me passionner pour ces personnages et j'avais envie de prendre mon temps pour parcourir toute cette période qui va de... Enfin, le premier commence en 42, mais il y a quelquefois des flashbacks, et puis pour aller jusqu'à 44 et même 45. Donc en fait, c'est pas une tétralogie. En fait, il y a eu une première trilogie, on pourrait dire, qui est l'affaire Léon Sadorski, l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski et l'ange du péché, que j'ai appelé, sur le titre général, la trilogie des collabos. Et puis là, on est dans une période où en fait, la situation en France est extrêmement tendue entre Français. Et j'ai appelé ça maintenant, cette nouvelle trilogie, la trilogie de la guerre civile, dont le premier épisode est celui dont on parle aujourd'hui, la Gestapo Sadorski.
Ah, alors donc, il y aura encore deux.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Mais c'est génial, ça.
Je suis en train d'écrire le cinquième en ce moment. Enfin, j'ai commencé.
Ça a demandé une documentation absolument énorme, parce que on voit aussi bien dans la trilogie des collabos que dans la Gestapo Sadorski, le quotidien des gens, le travail de la police, la Gestapo, etc. C'est décrit avec une minutie, mais c'est affolant.
Ouais, bah déjà par caractère, je suis minutieux. Enfin, en tout cas, quand je raconte des histoires. Et puis, au début, j'étais un petit peu inquiet par rapport à justement au travail que ça représentait de pouvoir parler d'une manière réaliste de l'occupation, parce que ce sont quand même quatre années extrêmement bizarres pour les Français où toutes les valeurs sont inversées. Et puis, il faut le mode de vie a changé. Il y a toutes ces histoires des tickets d'alimentation, etc. Il y a plein de choses. Qu'il faut savoir.
Bon,
en même temps, on peut se tromper, mais il y a des tas de choses qu'il faut savoir. Même par exemple, juste un tout petit exemple, à partir d'une certaine date, pour des raisons de restriction de papier, on a décidé que les tickets de métro seraient valables deux fois. C'est-à-dire, chaque ticket, en fait, au lieu de jeter le ticket, on pouvait le réutiliser une deuxième fois. C'est des petits détails comme ça. À une autre époque, on a supprimé les strapontins dans les salles de cinéma pour faciliter l'évacuation en cas de panique due à un bombardement. Voilà. Donc, il faut aussi savoir aussi les périodes où il y avait effectivement des bombardements, les périodes aussi où les Allemands fusillaient des otages. Enfin, tout ça, c'était extrêmement complexe, mais j'ai croisé énormément de sources, en fait, diverses pour pouvoir faire ce portrait de la France occupée. Et donc, il y a les archives de la préfecture de police, il y a les journaux intimes, je travaille beaucoup avec les journaux intimes, beaucoup de gens racontaient leur vie pendant l'occupation et ils mettaient telle date, tel jour, etc. Et ils parlaient quelquefois aussi du temps qu'ils faisaient ou de petits détails banals, mais qui pour moi permettent de d'enrichir énormément la narration.
Ah oui, là on y est vraiment. Hein. Et donc là dans la Gestapo Sadorski, nous sommes en octobre 43 et c'est effectivement comme tu le disais, la guerre commence à prendre une très très vilaine tournure pour les nazis, tant sur le front de l'Est qu'en Afrique du Nord, et on ne se demande plus s'il va y avoir un débarquement allié, mais quand il va avoir lieu. Et Sadorski, que l'on a connu dans la trilogie des collabos assez sûr de lui, Sadorski commence un petit peu quand même à hésiter.
Oui, il doute un peu. Bon, les policiers autour de lui aussi, évidemment, certains ont pris les devants, mais il n'en est pas encore au point où il va devenir entrer vraiment ou en tout cas pour son intérêt, comme l'ont fait beaucoup de flics, entrer dans un réseau de résistance. Mais en revanche, il va faire semblant d'être résistant, mais ça, c'est bien typique de Sadorski. C'est pour un but purement personnel, c'est-à-dire que pour conquérir le cœur ou en tout cas le corps d'une jeune lycéenne française qui, comme beaucoup de ses copines, sont toutes résistantes de cœur, en tout cas, il va se faire passer. Enfin, il va faire une sorte de manipulation de plus en plus complexe pour se faire passer auprès d'elle pour un chef de réseau et l'engager en fait dans ce réseau qui est totalement inexistant.
Et Sadorski, justement, qu'on a connu très froid, très capable d'analyser, calculateur. Là, j'ai l'impression dans ce volume-là qu'il est en train de se noyer dans toutes ces histoires avec les jeunes filles, aussi bien avec Julie Hodvac, la jeune juive qui cache chez lui depuis trois volumes maintenant, qu'il a mise enceinte. Et j'ai l'impression qu'il se noie dans tout ça pour ne pas voir la réalité.
C'est peut-être ça, ou peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est un personnage, parce qu'il a à la fois la banalité du fonctionnaire et puis il a son originalité qui est assez grande en fait, et c'est un, on pourrait presque le qualifier d'obsédé sexuel, ou en tout cas il est très calculateur, très très rusé, et quelque part ça l'amuse, ou c'est presque devenu un mode de vie de profiter finalement de l'occupation, pas seulement pour des petites combines comme tous les flics le faisaient, mais aussi pour assouvir ses instincts. Il se rend compte finalement que tout est permis, ou tout est possible en tout cas. Évidemment, il part dans des histoires de plus en plus complexes, et où il risque de se perdre. Il risque aussi de perdre vendre, bah, il risque de se faire arrêter parce qu'il est quand même, déjà depuis l'épisode précédent,
il est chaud,
des sérieuses entorses à la légalité.
Il est très très chaud. Et justement, il y a un de ses indiques qui va venir le trouver et qui a très peur d'une forme de résistance, d'un groupe de résistants qui commence à monter, les FTP, MOI, main d'œuvre immigrée. Et la Gestapo qui veut embaucher Sadursky dans une nouvelle brigade qui serait chargée de traquer des jeunes femmes qui séduisent des soldats allemands pour les manipuler. Et en fait, tout ça va se regrouper. Et c'est ce roman-là, la Gestapo Sadursky, est principalement orienté sur cet épisode de l'affiche rouge de la résistance des anciens des brigades internationales ou des Roumains, des Italiens antifascistes qui étaient en France.
Voilà, ce sont les communistes étrangers. Donc déjà, j'avais abordé un peu les FTP, la résistance communiste, enfin les débuts des FTP dans l'étoile jaune de l'inspecteur Sadursky, avec un personnage de jeune résistante communiste, et puis les premiers attentats, il y a une bombe dans un café. Mais là, je voulais parler, me focaliser plus sur les résistants étrangers, les communistes étrangers, en fait, qui représentent quand même surtout... Bon, je parle surtout de la région parisienne, hein, et de Paris, donc je parle des résistants communistes sur cette zone, et là, à peu près 50% des résistants sont en fait des FTP MOI, donc il y a d'un côté les FTPF qui sont les francs-tireurs partisans français, donc qui dépendent directement du parti communiste, et puis il y a cette organisation qui avait été créée au début des années 1920 pour rassembler les communistes étrangers. Parce que c'était séparé en fait entre Français et étrangers dans le Parti communiste français, et donc la main d'œuvre immigrée, comme on a fini par appeler cette organisation, est devenue une branche des FTP, les FTP MOI, et donc c'est là qu'on rassemblait. Bon, il y avait quelques Français, mais dans la plupart de ces résistants sont des communistes étrangers, dont les vétérans chez eux sont effectivement des anciens des brigades internationales qui leur apprennent à faire dérailler les trains, toutes ces histoires d'explosifs, etc. Et c'est une résistance principalement juive. Il y a aussi des Italiens, des Arméniens, etc. Et comme cette période, c'est vraiment l'époque de la filature et de la chute du groupe Manouchian, qui est très très connu. Il y a eu un film, il y a eu le film L'Armée du Crime, de Guédiguian, il n'y a pas si longtemps. Et la fameuse, ce sont eux qui vont se retrouver sur la fameuse affiche rouge. Et donc, je voulais parler de ces résistants-là. Et puis, tout à fait par hasard, j'ai découvert, en voyant le documentaire tourné par un ami, Alain Jomy, où il interviewe des anciens résistants juifs, que ce groupe existait, qui s'appelait, donc c'était ils appelaient ça le travail allemand, au sein de la résistance FTP-MOI, et c'était des jeunes femmes, il y avait aussi des Allemands qui composaient, imprimaient et distribuaient un journal destiné aux soldats allemands des forces d'occupation, un journal de propagande communiste écrit en allemand, et puis il y avait ces jeunes femmes, qui étaient une quinzaine à peu près, et dont la tâche était d'aborder les soldats allemands et de les sonder un peu, de voir si c'était des nazis 100% ou si au contraire c'était des jeunes Allemands un peu ordinaires qui finalement n'étaient pas des nazis, et de les démoraliser déjà, et puis selon leur réaction essayer de trouver les plus prometteurs parmi eux, ceux qui vraiment pourraient aider la résistance en procurant des armes, en volant des armes par exemple dans les piscines. Ça aussi c'est très peu connu, les soldats allemands fréquentaient beaucoup les piscines parisiennes, évidemment. Évidemment, ils se déshabillaient dans les vestiaires et ils laissaient leurs armes dans les vestiaires. Donc ces soldats allemands devenus résistants, en fait, volaient les revolvers et pistolets de leurs camarades et les donnaient à la résistance qui manquait énormément d'armes de poing, et c'est comme ça qu'ils ont pu s'en procurer. Et ces femmes couraient des risques énormes, évidemment, parce que elles risquaient la condamnation à mort, et puis évidemment des tortures terribles par la Gestapo. Et en fait, assez peu ont été arrêtés.
Oui, et justement, la Gestapo était relativement impuissante par rapport à ça. Et on insiste dans le roman, en même temps, à la déliquescence un peu de la toute-puissance allemande et à la montée de la férocité.
Oui, de toute façon, les les Allemands.
Et des collabos, les deux.
Les collabos ont très très peur parce qu'il y a énormément d'attentats. Il y a eu souvent ces attentats sont des grenades ou des jetés dans des lieux de plaisir ou des cafés, des restaurants, etc. fréquentés par les soldats allemands et puis par les collabos. Et puis quelquefois, par chance, les résistants réussissent à éliminer une cible extrêmement importante, et c'est le cas dont on parle au début du livre et qui est pourquoi les Allemands sont tellement sur les dents, c'est qu'il n'y a pas seulement des soldats, des autobus transportant des soldats ou des camions, etc., qui sont attaqués à la grenade, mais il y a également le colonel SS Julius Ritter, qui est l'envoyé en France de Sokol, qui était le grand organisateur du service du travail obligatoire, donc tous ces recrutements énormes qui étaient très importants pour l'économie allemande, justement, de faire venir des jeunes Français et autres pour travailler dans les usines pour remplacer les soldats partis au front. Et donc Ritter est abattu en sortant de chez lui par un petit commando de trois hommes, un guetteur et deux autres, dont le célèbre Marcel Reimann, qui est un des héros d'un très jeune homme de 20 ans, qui est un des héros de l'affiche rouge. Et évidemment, la Gestapo veut absolument, déjà fusille 50 otages déjà pour commencer, mais veut absolument démanteler ce groupe des FTP. Et pour cela, ils ont l'aide fournie volontiers par la préfecture de police française et les fameuses brigades spéciales qui sont spécialisées non seulement dans les tortures, mais surtout dans les filatures. Et c'est grâce à ces filatures, d'ailleurs, que le groupe Manouchian est tombé.
Encore une victoire de la police française de l'occupation, c'était assez extraordinaire. Elle a devancé souvent bien des exigences allemandes. Merci beaucoup, Romain. Donc, je rappelle le titre du roman, c'est La Gestapo Sadansky, paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et puis, évidemment, pour terminer cet entretien, on va écouter l'affiche rouge de Léo Ferré.
Très bien.
Merci, Romain.
Merci beaucoup.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Après toutes ces histoires de très grands romans, mais des scénarios tout sauf drôles, enfin une bonne nouvelle avec la naissance prochaine d'une nouvelle collection de polars aux éditions La Talente. Fusion sera son nom et sa directrice ou co-directrice Caroline de Benedetti est avec nous pour nous la présenter. Bonjour Caroline.
Bonjour Patrick.
Alors tu viens de l'association Fondu au Noir, est-ce que c'est lié ?
Non, c'est pas lié du tout, c'est ce qui préexiste, puisque l'asso existe depuis 2007.
Ouais.
Et c'est tout ce qu'on a effectué et réalisé comme travail autour du polar avec l'association, qui à un moment nous mène à une direction de collection avec Aymeric, avec qui je travaille.
Oui, avec ton collègue Aymeric Cloche.
Voilà.
Et Fusion, alors d'où vient ce nom, la Fusion, pour une collection de polar ?
D'un brainstorming intensif.
Waouh.
Non, c'était l'idée de trouver un mot, un terme, quelque chose qui représente un peu ce qu'on voulait faire. Et comme dans notre intention, il y a de donner, mettre à l'honneur des textes qui sont sur le mélange des genres, qui est un peu ce qui nous intéresse et ce qui nous a plu ces derniers temps, la fusion est une façon d'illustrer ça, d'illustrer comment le roman noir peut s'imprégner de fantastique, d'anticipation, de science-fiction, comment l'enquête peut s'ouvrir aussi sur d'autres univers. C'était un résumé en un mot.
C'est ça, un petit peu la mode, ça aussi, je vois ça en ce moment avec les romans qui vont paraître de mêler polar et fantastique. Il y en a de plus en plus, je trouve.
Ça a toujours existé, mais peut-être de façon moins prégnante. Et puis il se trouve aussi qu'on a des générations d'auteurs qui rajeunissent, enfin qui sont nouvelles et qui arrivent, qui partent avec un bagage différent, sans doute aussi lié au cinéma, et qui sont ouverts peut-être plus facilement au mélange des genres, qui ne se posent pas les questions d'écriture dans les mêmes termes et qui vont aller piocher dans tous les univers qui leur sont familiers. Donc ça se ressent à travers les textes qui sont publiés forcément, et par aussi le goût des lecteurs qui sont ouverts à tout. Et c'est assez enrichissant aussi parce que ça fait de nouveaux univers, de nouvelles voix, et puis d'autres façons de raconter les histoires.
Oui, par exemple, ça peut donner envie de découvrir la SF en lisant un polar qui effectivement a des ressorts qui tiennent de la science-fiction ou de la littérature blanche. On peut se dire, tiens, finalement, ça peut être pas mal, on peut... Voilà.
Oui, tout comme on a vu du polar édité en littérature blanche,
oui,
mais sans l'étiquette. C'est aussi quelquefois des questions de lecteurs qui se disent « Ah non, ça, je ne vais pas aimer » parce qu'ils se font une image de l'étiquette. Et puis, si on l'enlève, ils se rendent compte qu'il y a des livres qui vont leur plaire.
Ah ouais, ça, c'est terrible. Vous ne fiez pas aux étiquettes, jamais. Il y a une question que je me posais. C'est, on dit toujours « Il y a trop de polar qui sort, je ne sais plus, 1800, ouais, je crois, par an. » Et paf, là, on ouvre des collections. Comment ça se fait ?
On est têtu.
Ah ouais.
Non, mais c'est parce qu'il y a forcément des textes qui restent intéressants à publier. Effectivement, les libraires le disent. Ça fait quelques années que le polar est à l'honneur, qu'il est partout, que des articles lui sont consacrés. Donc on voit bien qu'on n'est plus sur, sur le même regard. À une époque, on disait que c'était un lectorat marginal. Bon, aujourd'hui, c'est grand public. Donc là, là-dessus, on a gagné quelque chose, forcément. Mais on peut craindre un effet de lassitude. A priori, ça ne se vérifie pas non plus. Les gens sont quand même curieux, on le voit bien là. Hein. Quand il s'agit de se confiner, on va acheter des livres. Donc, il y a quand même une demande. Et nous, ce qu'on croit, c'est qu'il reste quand même de bons textes à faire découvrir.
Oui, il y en a bien des mauvais qui sont publiés. Donc,
voilà. Après, c'est des choix de lecture. Hein, mais tant
là, c'était ma minute mauvaise langue.
Place. non, mais c'est sûr. Forcément, il y a des textes très critiquables qui sortent tous les jours sur les tables des librairies, qui squattent des places, qui trustent certaines places. Et derrière, il y a des super textes qui ont du mal à se faire connaître. Et voilà, et c'est forcément, nous on va pas dire le contraire, ceux qu'on a l'intention de publier, ce sont des textes qu'on pense et qu'on trouve de qualité.
Bah, évidemment. Et donc la proportion, il y aura des auteurs français, des auteurs étrangers, vous êtes en recherche d'auteurs ?
On est en recherche d'auteurs, il y aura des auteurs français et étrangers. L'intention c'est de faire la plus grande place possible à des textes d'auteurs émergents, à des voix françaises, mais sans se priver de tomber sur un texte qui rentrera pas dans ce qu'on avait imaginé, mais qu'on aura aimé. Et la preuve, c'est que le premier roman qu'on sort est une autrice allemande, mais qu'on suit depuis un petit moment et qu'on avait envie de publier en France parce que c'est un texte super intéressant avec un beau personnage, qu'elle a du succès en Allemagne, elle a eu le Grand Prix de littérature policière en Allemagne, elle est traduite en France, elle est traduite en Angleterre, pardon, en Italie, et voilà, et on veut la faire connaître en France.
Et un jeune auteur là, ou un vieux auteur qui se dit tiens, je parais très bien chez Fusion, son texte, il doit présenter quoi ? À part être bien écrit, évidemment, et raconter une histoire.
Ouais, oui, on est sensible à l'écriture. On est aussi de grands lecteurs de polar, donc on a besoin de choses qui vont nous surprendre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la énième histoire d'enquête policière avec la scène de crime classique. Je pense que Aymeric, ça sera aussi un peu le même cas, même si on a des regards différents sur les textes qu'on lit. Mais on a besoin d'être surpris, voilà. On a besoin de voix qui vont rompre avec les schémas classiques. C'est quelquefois par des choses toutes simples, hein. Ça peut être une façon d'écrire, ça peut être la structure même du roman. On est assez demandeur de ça.
Des personnages originaux.
Voilà, des personnages qui, par un aspect ou un autre, vont aussi... ne pas nous donner l'impression qu'on les a déjà vus ailleurs. Quoi.
Ouais, là chez nous, avec le tueur en série génial et le flic qui est débordé et qui finalement va quand même l'arrêter.
Il faut trouver une façon de provoquer le déséquilibre. C'est ce que dit Simone Burrows, qui est la première autrice qu'on va publier. C'est ce qu'elle cherche, à déstabiliser le lecteur et on trouve qu'elle y arrive. Malgré le fait qu'elle s'inscrive aussi dans ces fameux codes, puisqu'elle a un personnage de femme procureure qui enquête à Hambourg. Mais avec ça, avec ces codes-là, elle a une voix qui fait qu'on ne se lasse pas quand on la lit. Et on est sur un terrain familier, surprenant, et ça nous a séduit.
Et Fusion paraîtra aussi en numérique ?
Très probablement, oui. Là, j'avoue que... On n'est pas rendu à cette question, mais la Talente a un catalogue qui est aussi numérique.
Ouais.
Donc, il est très probable qu'il y a un prolongement en version numérique de ces ouvrages-là.
Voilà, il n'y a pas une aversion de...
Ah non, pas du tout.
C'est tout à fait possible. Donc, les premières parutions, ce serait à quelle date ?
En janvier, le 21 janvier.
Même avec le confinement et tout ça, on recule pas.
On se pose forcément les questions, comme tout le monde, mais pour l'instant, on est sur cette date-là. Donc, s'il y a un changement, on le fera savoir. On est tous, je pense que toute la chaîne du livre est un peu en train de se poser des questions et de regarder comment la situation va évoluer.
Oui, ça, je confirme, jours, ça doit être terrible aujourd'hui.
Ouais, il y a pour tout, hein, que ce soit d'ailleurs éditer, animer, écrire. Ça pose question pour tout le monde. Voilà, faut essayer quand même de se projeter, de faire aboutir les projets pour que les choses se fassent. C'est encore plus important.
Oui, alors donc, il y aura cette autrice allemande et
oui.
Comme dans les premiers à sortir.
Et ensuite, il y aura donc Anouk Langanet avec un texte qui s'appelle Clark. Anouk Langanet est corse, elle a déjà eu deux romans adultes et un roman jeunesse publié chez un éditeur corse. Elle est assez peu connue, je pense, des lecteurs français. Moi, j'avais beaucoup aimé son texte qui s'appelait Même pas morte, qui était vraiment drôle, enlevé et grinçant. Et c'est ça aussi qu'on aime dans sa façon d'écrire. Et Clark nous a, voilà, nous a plu là aussi, pour tout ce qu'elle disait, pour ce portrait de femme, pour une histoire de famille, pour cette idée de faire de son fils un super héros. Enfin voilà, il y a tout ça dans ce livre.
Clark pour Clara.
Et ça, ce sera.
Kent,
voilà, et... bonne déduction.
Eh ben, c'est à peu près tout maintenant sur la collection de Polar Fusion qui paraîtra en janvier dans la maison d'édition La Talente. Merci beaucoup, Caroline.
Merci beaucoup.
Une naissance, ça se fête. Donc, avec Jacques Higelin, on va s'écouter Champagne.
Super.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, lucioles, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait de bon dans un concert de jurons disant le tout pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus passe grief de leur peine. Ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me chercher sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Fin de cette 72e mensuelle de Dépolar et des notes. Nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, faites gaffe au virus. Il nous reste encore la possibilité de voyager partout dans le monde sans le moindre risque, et cela grâce à la littérature. Profitez-en. Bye bye.
Des polars et des notes.